On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Tactique. Alors ce mois-ci, nous allons reprendre notre émission du mois dernier sur le revenu de base. Pour ceux qui nous avaient manqué le mois dernier, je vous invite à aller sur le site de la Radio Primitive pour écouter l'émission en podcast. Et donc nous allons reprendre notre interview avec Virginie Deleu et voilà, bonne aventure à toutes.
Donc je voudrais revenir moi, sur le financement, puisque vous avez parlé donc... de l'héritage Kamel aussi de la fiscalité etc. Il y a le quid des entreprises quand même, quid de l'imposition des entreprises, quid de la répartition primaire des revenus entre le travail, le capital, etc. Je suppose que vous y avez réfléchi, hein, mais comme c'est pas apparu dans la discussion, je me permets de poser la question.
Alors moi, c'est pas dans mes compétences particulières le financement. Donc j'ai quelques notions générales, mais je vais pas pouvoir développer beaucoup ça. Par contre, vous pourrez regarder sur le site. Alors il y a Guy Valette par exemple qui a construit une version de revenu de base qui est intéressante et de façon financière très précise. Il y a aussi une version qui a été imaginée par un nordiste qui s'appelle Florent Kessar et où il parle justement des entreprises, alors pas des grosses entreprises, il est auto-entrepreneur et donc il a construit une version justement qui permet de rendre les entreprises actrices du financement du revenu avec une partie versée dans le revenu de base, une partie versée en pour réinvestir, etc. Donc pour se développer en interne, mais il n'y aurait plus évidemment de personnes qui auraient tout à gagner comme les actionnaires à ce que ça se développe juste pour se remplir les poches, quoi. Donc c'est un système qu'il propose et qui est construit autour de la notion de revenu de base. Donc je sais que certains y ont déjà pensé. Après c'est sûr qu'au niveau politique en France, on va à l'opposé de ça, puisque même la Sécu n'est plus financée par les entreprises. Et les notions de cotisation, etc., ça devient des coûts. Donc on va pas du tout vers ça. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que une des problématiques autour du revenu de base ou une entrée de réflexion, c'est souvent aussi par l'automatisation, le numérique, etc. Et le fait que potentiellement un certain nombre d'emplois vont disparaître. Moi, j'ai envie de dire grâce, parce que si on peut avoir une machine au lieu d'une caissière, moi je souhaite à la caissière de vivre autre chose que son métier de caissière, de pouvoir choisir son activité autrement. Qu'on n'attende pas d'une caissière d'avoir notre lien de la journée. Enfin voilà, je pense que pour n'importe qui, ça serait mieux d'avoir du lien ailleurs. Donc moi, ça me choque pas qu'il y ait moins d'emplois dans certains domaines parce qu'on mécanise ou parce qu'on numérise. Et en même temps, pour la transition écologique, on sait bien qu'il va y avoir beaucoup besoin d'emplois dans certains autres secteurs, comme par exemple l'agriculture. Donc là, je peux vous orienter vers une association qui s'appelle le Shift Project et qui a calculé, qui a anticipé au niveau même local pour pouvoir conseiller justement que ce soit des villes, des villages ou des communautés d'agglos pour commencer leur transition écologique en basculant justement un certain nombre d'emplois vers les domaines dans lesquels on a vraiment besoin de main d'œuvre, parce que là l'usage des machines est mauvaise pour notre santé, pour la santé de la terre, etc. Donc on voit que il y a une transformation à accompagner et que le revenu de base, là, pour le coup, peut être très intéressant pour justement permettre aux gens d'avoir une flexibilité, parce que pendant qu'on est en formation, eh ben, on continue à avoir son revenu de base. Pendant qu'on commence une entreprise ou qu'on lance une activité, on a son revenu de base pour se sécuriser, etc. Et du coup, par rapport aux entreprises, il y a quelque chose qui change dans le sens où si les gens individuellement ont leur revenu de base, alors pour tous ceux qui ont envie de lancer une activité, je pense par exemple au cercle des jeunes dirigeants qui promeuvent le revenu de base, parce que pour eux, bah, c'est une sécurité plutôt que de devoir hypothéquer son bien ou prendre des risques sur le budget familial ou des choses comme ça. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de lancer une activité, c'est plutôt positif, c'est une sécurité à long terme. Et pour les autres, c'est aussi une façon de pouvoir choisir son activité, au moins un peu, et de pouvoir négocier plus ses conditions de travail. Donc ça signifie que au-delà même du financement par les entreprises, il y a aussi à l'intérieur des entreprises un changement de management. Et à partir de là, on a forcément un changement de système. Dans le sens où on ne peut plus avoir... parce que les gens eux-mêmes ne vont plus cautionner ça, ce système hyper hiérarchique, très pyramidal, avec en haut des très très riches, je veux pas dire qu'ils font rien, mais en tout cas qu'ils méritent pas tout ça, ou des actionnaires qui, pour le coup, ne participent pas à la vie de la société, de l'entreprise, etc. Et des personnes tout en bas qui gagneraient presque rien, qui seraient de plus en plus précaires, et qui, elles, démolir leur santé, etc. Donc forcément, l'arrivée d'un revenu de base, ça vient accompagner aussi tout un mouvement des entreprises, alors on dirait nouvelle, gouvernance partagée, ou celle qui distribue le temps de travail, ou des choses comme ça. Et je pense qu'on a un levier là de masse qui ferait que ce soit au niveau des artisans, qui sont quand même la première... d'emploi en France, rien que ça, ça renverse l'offre et la demande, en fait. Et ça relativise le pouvoir des grandes entreprises en termes on attend d'elles qu'elles fournissent des emplois, parce qu'on se dit qu'on a besoin des emplois pour vivre. Avec un revenu de base, ça éradique cette idée-là. Puisque les gens, avec le revenu de base, choisissent leur activité et iront beaucoup plus vers des métiers qui font, et notamment les métiers de l'agriculture. Moi, je suis toujours admirative des agriculteurs qui y passent un temps fou, par passion, par loyauté familiale, par attachement avec la terre. Il y a des valeurs qui sont très fortes et qui laissent leur santé parce qu'ils utilisent des produits toxiques. J'ai l'impression de toucher aussi beaucoup d'autres sujets, mais ils sont vraiment imbriqués dans la notion de économie entre production et consommateur.
Et d'ailleurs, alors tout à l'heure, on a parlé de l'héritage et de la propriété. Mais là, juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, est-ce que, pour que le revenu de base donc, ait un sens, il ne faudrait pas limiter aussi le salaire maximal qu'une personne peut toucher à côté ?
Alors, la version des décroissants prend ça en compte. Donc, effectivement, ils articulent systématiquement un plan, le revenu de base avec un plafond, un revenu maximal acceptable, comme ils le disent.
D'accord.
Parce qu'effectivement, ça a du sens en termes de régulation des richesses. C'est logique si, effectivement, votre intention, c'est de réduire les inégalités. Si c'est juste, entre guillemets, d'éradiquer l'extrême misère, vous ne mettrez pas forcément en place.
D'accord.
Donc ça dépend encore du projet de société.
Alors, moi concernant, donc c'est toujours Kamel, concernant le revenu de base, bon moi je suis totalement convaincu par le principe et l'idée générale du revenu de base. Je pense que ça fait pas débat chez une bonne partie de l'opinion, enfin un peu informée sur ces questions. Pour des raisons écologiques, hein. Moi, ce qui m'a amené au revenu de base, c'est l'écologie, la décroissance, etc. Donc, pour moi, on a des murs, des, des limitations liées à la planète, des limitations physiques, biologiques, etc. On ne pourra pas faire l'économie d'une régulation de l'empreinte écologique de chaque être humain. Et le seul moyen, à l'exception de la barbarie, pour arriver à ça, c'est d'offrir un revenu de base à chaque être humain qui vit sur cette planète. Bon, ça, c'est mon point de vue. Bon, je suis sûr, personne... Alors, concrètement, pour toi, comment on peut transiter de façon un peu intelligente vers un revenu de base, c'est-à-dire passer de l'ancien modèle au nouveau modèle? C'est ça qui me fait, moi, à titre personnel, question. L'économie, c'est comme un avion qui vole. Ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin d'envoyer leurs gosses à l'école. Et pourtant, il faut tout changer dans l'avion. Donc comment on fait pour changer le système sans que l'avion s'arrête de voler et sans que tout se casse la gueule? Voilà.
Alors, il y a plusieurs réponses possibles à ça. Hein, et évidemment, ça va dépendre du contexte, de la volonté, de la pression populaire, etc. Une des possibilités, c'est d'instaurer la version qui est la moins ambitieuse. Donc, je parlais du socle citoyen que vous retrouverez sur le site de l'ERC, c'est l'association pour l'instauration un revenu d'existence, AIRE. Ça, c'est une version qui est minimale. C'est 500 euros pour tout le monde. Il n'y a pas de financement en plus. Donc, c'est ce que l'État donne déjà, qui est redistribué différemment et de façon beaucoup plus simple. Donc, c'est pas une mesure révolutionnaire, mais elle instaure déjà un soulagement pour les plus précaires. Et puis, cette idée que on décorrèle encore plus, on fait déjà beaucoup en France, mais encore plus le travail des moyens de vie, quoi. Donc ça peut être une façon de le faire. Donc on instaure, ou même un revenu de base de quelques euros, voilà, donc de façon progressive en termes de montant. Mais on est universel quasiment tout de suite. Quand je dis universel, c'est dans la communauté politique de française, par exemple. Donc on pourrait, si on prend le périmètre français, se dire, bah, on commence un petit revenu de base, et puis on c'était un peu la proposition de Benoît Hamon, hein, qui disait que il instaurait déjà une première partie, et puis après une convention et une consultation populaire, il verrait s'il augmente le montant.
Donc un peu un effet tache d'huile, c'est-à-dire on démarre avec petit, puis petit à petit, au fil des années, le périmètre augmente.
Voilà.
Voilà.
Alors le périmètre, là pour l'instant j'étais sur le montant. Ouais. Donc on peut commencer, tout le monde met un petit montant. Et puis petit à petit, on l'augmente. Et du coup, ça permet aussi, même en termes de mœurs, de s'habituer petit à petit à l'idée. Bon, au début, c'est pas grand-chose. Et puis petit à petit, on s'approprie aussi la notion de liberté. Voilà, ça s'apprend, la liberté. Surtout quand on n'en a pas eu beaucoup. Donc voilà, ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, ça serait de partir sur des publics cibles. Donc Benoît Hamon avait fait ça aussi, puisque dans la deuxième proposition, il ciblait les 18-25 et les travailleurs pauvres. Et donc l'idée, ça pourrait être ça. Ça pourrait dire, bon, vu l'état des lieux aujourd'hui, les 18-25 n'ont rien. Donc on donne d'abord aux 18-25. Après, on élargit les critères du RSA. On assouplit évidemment les contrôles. On abandonne l'idée de faire travailler contre cette aumône. Enfin voilà. Donc ça peut être ça aussi, de faire par public. Les retraités pauvres, etc. Et là, du coup, ça serait non pas en termes de montant, mais plutôt en termes de périmètre. Donc, on élargirait progressivement l'assiette, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées et les catégories de personnes. Là, ça a l'avantage de pouvoir agir sur les publics qui en ont plus besoin, en urgence, parce qu'il y en a qui crèvent, voilà, de ce qui se passe aujourd'hui. On peut parler des étudiants, mais aussi des autres qui n'ont pas de travail, etc. L'inconvénient, c'est que on n'est pas encore dans l'universalité, et donc il y aura sans doute un pas à franchir encore pour qu'on accepte que tout le monde donne. Et entre-temps, il risque de continuer à y avoir des non-recours, puisque les personnes doivent savoir qu'elles y ont droit. Il faut que ce soit suffisamment accessible. On voit les taux de non-recours pour le RSA. Il y a quand même 30% des personnes qui ont droit au RSA. Et qui le demandent même pas pour diverses raisons, et 60% des personnes qui ont droit au RSA activité, qu'ils ne demandent pas non plus. Et l'État est bien content de ça, puisque de toute façon, il ne donne pas assez d'argent dans la cagnotte pour nourrir tout le monde. Donc voilà, donc il y a quand même cette grosse limite de la conditionnalité. Ce qui dit condition dit contrôle. Qui dit contrôle dit personne pour faire ces contrôles, dit stigmatisation, dit dossier, dit complexité, etc. Donc le fait de le rendre universel, c'est pas pour les riches, hein, c'est pas le fait de le donner aux riches qui est important, c'est le fait de plus demander aux pauvres de devoir prouver qu'ils sont pauvres pour y avoir droit. Donc ça, c'est une limite à ce système-là. Et l'autre entrée, ce serait par une expérimentation, donc de cibler par exemple, un peu comme fait l'Europe, trois territoires à peu près en même temps différents et en même temps comparables, avec d'autres territoires témoins où là il se passerait. Pour se rassurer que oui, les effets sont bénéfiques. Bon, après, il n'y a aucun effet négatif sur toute la planète, donc on pourrait quand même imaginer que ce serait pareil, mais voilà, s'il y avait besoin de rassurer, donc l'avantage, c'est que voilà, ça peut rassurer les gens, c'est pas une révolution, c'est pas un... Donc en termes d'acceptabilité populaire, ça serait intéressant. Après, la grosse limite, c'est le passage à l'acte, après, à la généralisation. On voit que dans certains pays, dans un certain nombre de pays où il y a eu des initiatives, je pense aux États-Unis ou au Canada par exemple, qui sont des pays un peu comparables à nous en termes économiques et fonctionnels, il y a eu des expérimentations, mais il y a eu aussi des changements politiques de majorité qui ont fait que l'expérimentation, même si elle était positive, eh ben, n'a pas donné lieu à une généralisation et l'idée ressort 30, 40, 50 ans après. Et ils vont presque repartir de zéro, quoi. Donc voilà, chaque entrée a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est intéressant, c'est de les avoir en tête et dès qu'il y a une opportunité, de la saisir, quoi. Voilà. Après, Benoît Hamon a tenté. Bon, ça n'a pas marché à ce moment-là, dans le contexte du PS à l'époque, etc. Je pense que c'est surtout ça qui a joué. Là, il y a l'initiative citoyenne européenne qui permet de fédérer les associations de tous les pays européens. Et de pouvoir aller vers les gens en leur disant voilà, si l'idée t'intéresse pour faire des expérimentations, donc bon, on promet pas non plus la révolution, bon bah signe, puis voilà, donc c'est un levier d'éducation populaire intéressant aussi, et puis pour voir un peu où en est l'idée et possiblement si on réussit à être efficace, motiver des politiques en disant non mais regardez, il y a quand même autant de signatures en France ou dans tel et tel pays, la Slovénie par exemple, de façon assez inattendue. Explose les scores de signature. Donc peut-être qu'en Slovénie, il y aura des expérimentations bientôt, qui sait.
Mais en France, cette ICE, pardon, elle est méconnue, parce que moi je l'ai découverte en préparant l'émission et en la voyant sur la page, mais c'est vrai que j'en avais pas du tout entendu parler.
Si tu avais écouté l'émission La Tactique, qui est diffusée le 4e mardi de chaque mois, tu te serais aperçu que j'en ai déjà parlé. mais probablement trop vite ou trop...
Ouais, parce
mais
que d'accord. Pour le coup, j'avais pas, ça ne m'avait pas marqué, tu vois.
Alors, effectivement, alors en France, on n'est pas bon en termes de signature. Je relance un appel, vous tapez revenudebase.info. On demande juste au Parlement européen de soutenir les pays qui voudraient expérimenter. Donc, voilà, c'est pas dangereux. Mais en fait, on a eu beaucoup de difficultés parce que la campagne a commencé juste avant le Covid. Okay. Donc, forcément, pour aller tracter, pour rencontrer les gens... sur les marchés, etc., ça nous a bien freiné. Et même s'ils ont rallongé un petit peu la durée, en fait, ça reste très, très compliqué à faire passer. Et surtout, il n'y a aucun politique qui s'en est vraiment emparé. Même Benoît Hamon ne l'a pas porté. Julien Bayou aussi. Donc, il y a plusieurs politiques de ELV qui l'ont porté. Sandrine Rousseau. On a parlé. Du côté des droits, à droite, il y a Valérie Petit, qui est une députée ex-LREM, qui a pris la version du socle citoyen dans les bras et qui le porte vaillamment dans la droite modérée. Mais en fait, finalement, assez peu de gens connus l'ont relayé. Donc pour l'instant, ça reste assez confidentiel. Donc,
on va la, partir, on va la partager ouais, sur la page du groupe local. Hein, il y aura au moins 3 signatures de plus. Donc,
oui.
Non, moi j'ai déjà signé. Ah, bon.
Tiens, juste comme ça, une idée comme ça qui me venait. Pour peut-être donner un peu de force à cette idée du revenu de base, donc il y avait donc, la transition donc, par effetage d'huile. Donc petit à petit, on transforme le système en partant de petit, et puis après, on démontre la faisabilité, et puis ça grandit, et on fait la transition comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la possibilité d'avoir un double système parallèle, qui fonctionne en parallèle. En gros, voilà, on revient là, on irait sur les monnaies locales. La revenu de base serait distribué en monnaie locale, il permettrait de subvenir aux besoins de base, et en parallèle, il y aurait le système traditionnel, et qui permettait, avec de l'argent en euros, etc. Et donc les gens pourraient subvenir aux besoins de base via des réseaux locaux à base de monnaie locale. Et donc les deux systèmes fonctionneraient comme ça en parallèle pendant un certain temps. Est-ce que ça, c'est pas une idée intéressante à creuser?
Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, il y a un pays d'Asie. Alors c'est pas encore tout à fait le pays entier, mais il y a un pays d'Asie qui se lance là-dedans. Alors c'est la Corée du Sud. Dans une province, le chef de la province a décidé d'installer un revenu de base, mais version justement monnaie locale et dirigée pour les jeunes. Donc les jeunes reçoivent un certain montant de cette monnaie locale par trimestre, je crois, ce qui équivaut à peu près à 190 euros. Et en fait, ils ne peuvent les utiliser que dans les petites entreprises de la province. Et c'est le gouvernement de la province qui les distribue. Et en fait, ça a bien marché. Bon, c'était aussi un petit coup de pub parce que je crois qu'au prochain présidentiel, il veut se présenter. Donc, mais pourquoi pas? Et en fait, ce que ça a permis, c'est que, alors, ça a relocalisé évidemment la consommation des jeunes, qui peut être très mondiale, notamment à cause d'Internet, etc. Donc là, ça a relocalisé, du coup, ça a rediversifié et revitalisé aussi les petites entreprises, les artisans, les petits commerces, etc. Ça a été aussi un soutien pour les jeunes qui ont pas d'emploi ou qui sont étudiants, parce que du coup, ils ont pu avoir une vie sociale, se payer juste une bière, juste ça. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ça les a sensibilisés à une autre forme d'économie, finalement, alors que derrière leur téléphone, et la vente des petites entreprises a augmenté de 45%. Donc on voit comment, rien qu'en touchant un certain public, ça a permis de remonter le niveau de vie de ce public-là et de redynamiser toute une économie locale qui se délitait finalement. Donc ça pourrait être effectivement une entrée. Avec quand même une vigilance, c'est que normalement une monnaie est construite par les habitants, donc elle est construite localement avec une espèce de tripartite de trépied entre les consommateurs, les producteurs et les institutionnels qui font le lien, producteurs et commerçants qui font le lien avec ces trois-là. C'est décidé tous ensemble et il y a des critères d'économie sociale et solidaire. Et qu'on pourrait rajouter écologique. Et du coup, là, on a vraiment une co-construction. Comme ça se fait, par exemple, je pense à la monnaie de Toulouse, qui est assez riche et qui a été aussi utilisée pour augmenter les minima sociaux de certaines catégories. Mais voilà, il y a aussi toute cette dynamique, alors, qui prend du temps. Nous, à Lille, ça a chuté, ça n'a pas pris, et puis là, ils sont en train d'essayer de la remettre d'aplomb. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, le bonheur est sur le chemin, c'est-à-dire que la richesse aussi de ces monnaies locales, c'est justement aussi ce lien entre les gens, ce réseau et cette économie locale qui est que les gens se réapproprient en fait. C'est-à-dire que leur consommation reprend du sens, ils savent à qui ils donnent l'argent, un peu comme on voit le développement des AMAP, etc. Donc oui, pourquoi pas des monnaies locales à grande échelle, et en même temps attention de ne pas perdre ce que les décroissants parlent de bien commun. C'est-à-dire que la monnaie peut devrait, en tout cas, ça serait un idéal, être un bien commun. Donc géré par les personnes qui l'emploient et avec du sens et adapté au terrain.
Oui, ça nous laisse sans voix.
Oui, surtout qu'on a essayé de monter une monnaie locale à Reims.
Ouais.
Depuis quelques années, et bon, ça piétine.
Non, bah là, c'est embourbé, là, c'est plus, ça piétine voilà. plus, là, c'est... Il n'y a pas suffisamment de monde, alors on a fait des pseudo-sondages, et en fait, les gens, ils sont OK sur le principe de l'utiliser quand elle existera. Ce qu'il y a, c'est que personne ne veut rejoindre le groupe. Quoi. Les gens ne sont pas intéressés par s'impliquer dans l'élaboration du projet. Donc, du coup, voilà quoi. On est
au point mort.
Au point mort.
Oh, Moi, j'avais une question. Je pense que tu as dû rencontrer beaucoup de personnes qui, peut-être, ont changé d'avis sur le revenu de base en t'entendant parler, et que ça a pu prendre 10 secondes, 10 heures ou 10 ans. Selon toi, généralement, il faut combien de temps à une personne pour, je vais pas dire pour se, pour prendre conscience qu'un revenu de base, avec un changement profond de la société, résoudrait pas mal de problèmes qu'on a.
Alors, dans mon expérience, c'est difficile d'évaluer en temps, mais c'est proportionnel à la souffrance. Je vais vous donner un exemple. J'avais des amis de mon âge, donc des jeunes, des jeunes de 40 ans, qui voulaient alimenter un peu le débat familial autour de l'idée. Donc, ils m'ont invité à manger avec leurs parents, jeunes retraités, donc de 65 ans. Et en fait, ils avaient essayé déjà de leur en parler. Et puis, bizarrement, alors qu'ils sont de gauche, etc., plutôt humanistes, enfin voilà, bizarrement, ça passait pas du tout. Et donc, moi, quand je suis arrivée... je me sentais un peu en terrain conquis. Je me suis dit, bon, ça va être facile, des gens de gauche, syndicalistes, etc. Et en fait, pas du tout, ça a été même assez houleux comme débat, et ça a été une super leçon pour moi. En fait, leur première réaction, c'était, non, c'est pas possible, c'est pas aux jeunes, ils vont plus rien faire, ils vont pas apprendre la valeur travail, la fameuse valeur travail dont je parlais tout à l'heure, et puis, il faut qu'ils le méritent quand même, etc. Bon. Et en fait, moi, le levier que j'utilise toujours, et jusqu'à maintenant, je croise les doigts, c'est plutôt efficace, c'est juste l'écoute, en fait. C'est que en les écoutant parler de leur vie, j'ai découvert que lui, il travaillait sur des chantiers au niveau national, donc il partait, donc de chantier BTP, il partait à la semaine dans d'autres régions, et puis il revenait que le week-end. Et elle elle s'occupait des enfants, et même pendant toute une période, ils avaient tenté de lancer un petit commerce qu'elle avait tenu à bout de bras en même temps que les enfants, etc. Et donc, ce qui ressortait de leur vie active, c'est qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants grandir, qu'ils avaient réussi quand même à mettre suffisamment de côté pour acheter une maison. Bon, ça se passe dans le sud de l'histoire, une maison avec piscine. Alors moi, je suis du Nord. Donc maison piscine, pour moi, c'est un symbole extérieur de richesse. Donc j'avais plein de préjugés aussi en plus. Et en fait, ils m'ont expliqué que pour eux, cette maison avec ces quelques chambres dedans et cette piscine, c'était pour pouvoir recevoir leur famille, les enfants, les petits-enfants, pour pouvoir vivre finalement ce qu'ils n'avaient pas pu vivre, parce que arrêter de courir après le travail, après l'argent pour vivre, mais aussi l'argent pour mettre de côté, pour sécuriser les enfants après leur mort, etc., etc. Voilà, dans cette espèce de logique un peu infernale dont on parlait tout à l'heure. Et c'est que après avoir entendu ça qu'ils ont pu déposer que, ben oui, finalement, c'est vrai que leur petit-fils, là, il a 18 ans et il galère. Pourtant, il bosse, mais il trouve pas de boulot. Ou alors des boulots alimentaires qui sont mais tellement loin de ses compétences que c'est dommage, et que c'est vrai qu'un revenu de base il pourrait souffler, et puis il a rencontré une copine, ils aimeraient bien s'installer, ils peuvent pas, enfin voilà. Et en fait, moi ce que j'ai touché du doigt, c'est que quand les personnes moi j'arrive avec ma petite idée toute généreuse, etc., la fleur au bout du fusil, et en fait je me retrouve devant des personnes qui ont souffert et qui n'ont pas eu de choix. Et donc de leur dire avec ma petite idée, mais si, on va donner ça à tout le monde et puis tout le monde va pouvoir choisir, ces personnes qui sont quand même en fin de vie, enfin voilà, c'est pas à 65 ans qu'on refait une famille ou une carrière, juste ce qui leur reste, c'est la souffrance, quoi. La souffrance parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont perdu. À leur époque, ça se posait même pas. C'était tellement normal d'aller travailler, d'être ouvrier, de se bouffer le dos dans des chantiers de bâtiments. Mais là, aujourd'hui, moi, avec mon idée, je viens réveiller quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément vu, pas forcément conscientisé à ce point-là comme souffrance, c'est qu'ils n'ont pas vu leur gamin grandir, quoi. Et qu'ils arrivent tout cassés, l'une par le stress et l'autre par le travail au BTP, dans une retraite dont ils essayent de profiter en gardant les enfants, etc. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de partager cette idée-là, c'est de se rendre que ça peut avoir un impact très violent sur des personnes qui ont souffert du système. Et exactement comme on voit aujourd'hui la montée de la xénophobie, etc., si on écoute ce qu'il y a derrière, c'est des personnes qui ont souffert et qui ont tellement souffert que c'est impossible pour elles d'imaginer que pour d'autres ce soit plus facile. Non pas parce qu'elles sont égoïstes, mais juste parce que pour l'instant, elles n'ont pas pu déposer leur souffrance et qu'il n'y a personne qui a pris la mesure de ce qu'elles avaient vécu. Et une fois qu'on fait ça, mais tout se dénoue à une vitesse incroyable. Et est-ce que ça vous intéresse que je rajoute un exemple ou pas? Parce que c'est vrai que moi, si vous me lancez, après, je m'arrête plus.
Ah bah oui, c'est intéressant.
Va sur ton deuxième exemple, vas-y.
D'accord. Alors, imaginez-vous, je suis dans la rue et je vois un distributeur de journaux. Vous savez, ceux qui mettent des pubs dans les boîtes aux lettres. Et je me dis, non mais ça, franchement, c'est un métier à la con. Donc, je vais aller voir si, avec un revenu de base, il continuerait à bosser de la même façon ou pas. J'adore aller voir comme ça les gens qui ont des métiers à la con, en tout cas de ce que j'en projette.
Oui, tu leur dis pas qu'ils font des métiers à la con.
Non.
D'accord.
Non, j'essaie d'être un peu plus diplomate.
D'accord, ça me rassure.
Mais en fait, j'ai une question que je pose tout le temps, je vous la soumets, que si vous voulez, c'est une excellente accroche, en tout cas, je pense. C'est imaginez, à partir de demain, vous recevez suffisamment pour vivre. Jusqu'à votre mort, c'est à votre nom, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et donc, je lui pose ma question. Et il me répond pas. En tout cas, pas comme je le voudrais. Moi, j'aimerais qu'il me réponde pour lui d'abord. Et en fait, il me répond ah non, mais cette histoire, cette idée, je la connais. Moi, je suis contre. J'ai une fille qui a 11 ans et je veux qu'elle apprenne que c'est important de travailler dans la vie. Si je faisais rien le matin, si je partais pas travailler, ça serait pas une bonne leçon pour elle. C'est important de continuer à travailler. Alors, je fais un peu marche arrière, je dis, mais c'est pas ma question. Donc, en tout cas, ce que j'entends, c'est que si vous receviez un revenu de base, vous continueriez à travailler, c'est ça? Il dit, oui, puis en plus, je suis syndicaliste, c'est important de défendre le droit au travail, en plus, dans mon entreprise. Et donc, il me raconte que dans cette petite entreprise complètement aberrante parce que ils ont donc Auchan et compagnie leur donnent les publicités à distribuer. Ils peuvent pas tous les distribuer parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Donc déjà, ils en jettent un tiers. Donc Auchan ne le sait pas, mais il y a un tiers de ces prospectus qui part à la poubelle. Donc en termes d'écologie, bon, ça se pose là. Et en plus, en termes de conditions de travail, c'est une catastrophe. Lui, syndicaliste, il s'en prend plein la gueule, il subit des pressions, etc. Et puis régulièrement, ils écrèment, ou ils précarisent, ou ils sous-traitent parce que c'est moins cher, etc. Et il parlait même que ils allaient être récupérés par Uber bientôt et que Uber les utiliserait pour distribuer des paniers repas, etc. Enfin bref. Aux personnes âgées. Donc voilà, il en était là, et puis petit à petit, il arrive à me dire que c'est vrai que lui, son rêve, s'il avait eu un revenu de base, il n'aurait pas fait ça quand même. Parce que lui, son rêve, il est très écolo, et il aurait aimé trouver une vieille ferme. On a quelques territoires ruraux dans le Nord. Il aurait trouvé une vieille ferme qu'il aurait rebâtie de ses propres mains, parce qu'il adore ça. Et il aurait installé dans sa ferme en fait tous les moyens écolos pour récupérer l'eau, pour la nettoyer, pour capter l'énergie solaire, etc. Et en fait, sa ferme, elle serait devenue comme une maison témoin où les gens auraient pu venir et puis ils leur auraient proposé de découvrir comment vivre dans une maison. Une maison justement qui consomme pas et même qui produit de l'énergie, etc. Puis il finit par dire que il a pas pu parce que il faudrait reprendre ses études, qu'avec sa fille, parce que c'est il l'élève tout seul, il peut pas se permettre d'arrêter son boulot fut-il merdique pour reprendre une filière qui lui parle plus. Et en fait, petit à petit, on est arrivé à cette idée que le revenu de base, ça lui aurait permis ça. Ça lui aurait permis d'arrêter à un moment donné, ou de mieux négocier ses conditions de travail, ou de se mettre à mi-temps, et en tout cas de quitter effectivement un emploi qui n'a aucun sens pour lui, qui est pour le coup juste je vais pas, même pas dire nourricier, mais ce serait presque végétatif, quoi. Et que finalement, la valeur travail, ben, celle qu'il souhaite à sa fille, c'est pas d'accepter un boulot pourri comme lui là, qui a pas de sens et qui a de mauvaises conditions de travail, aucune reconnaissance, aucune évolution possible, etc. Mais ça serait plutôt, bah, justement, d'être sécurisé pour pouvoir se lancer dans ce qui nous semble bon pour nous, pour les autres, pour nos valeurs, quoi.
Ouais, travailler mais, pour nous et pas pour quelqu'un d'autre.
Alors, pour les deux, en fait. Ou pour les autres, pour le collectif.
Oui, c'est ça que je voulais dire, oui, pour les autres, pas pour quelqu'un en particulier.
C'est ça.
Ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que ça montre la force des... J'ai un terme pompeux, les impensés, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on croit, tout ce qu'on ne remet pas en question parce qu'on a été conditionné depuis le début de la vie. Par exemple, la notion de pénibilité, la notion de propriété, la notion de valeur de travail, l'utilité sociale, le mérite. Qu'est-ce que c'est que le mérite ? Est-ce que les gens ont réfléchi ? La notion de liberté, de sens de la vie, le temps, la démocratie, enfin, tout ça, c'est des choses qu'on pense acquises et cadré parfaitement et qu'on ne remet pas du tout en question. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable, que certaines personnes ne sont pas capables de faire la transition vers d'autres modes, d'autres philosophies de vie. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de dépasser ces conditionnements. Et évidemment, dès qu'on les met... c'est pas de la condescendance, hein, mais dès qu'on pousse les gens à repenser... ces choses, bien finalement, ils se disent, ah bah oui, finalement, c'est quoi le sens de ma vie ? J'ai travaillé comme un con pour avoir une maison, j'ai pas vu mes gosses. Est-ce que ça, c'est mais pertinent ?
Voilà. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose rarement, en fait, parce qu'on est pris dans le système. Et puis voilà, quoi, on nous dit, tu fais des études, après, t'as fini tes études, tu rentres dans une entreprise bien, et puis après, voilà.
Alors, le gars, il pensait avoir réussi sa vie, puis finalement, il se rend compte que... Il n'a pas vu ses gosses grandir.
Il est enfermé dedans.
Et là, c'est le choc. Et là, il commence à se dire, s'il y avait eu un truc qui m'aurait permis de voir mes gosses, etc., j'aurais peut-être réussi ma vie. J'avais peut-être pas besoin d'une piscine, mais j'avais peut-être besoin de voir mes gosses grandir, les emmener, leur parler, leur faire découvrir plein de choses.
Les emmener à la piscine municipale.
Par exemple.
Par exemple. Et pourquoi pas devenir bénévole dans cette piscine pour qu'elle ouvre un peu plus longtemps, des choses comme ça. Bénévole ou pas, enfin après. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est... alors effectivement, on a plein d'impensés et à mon avis, aborder l'idée du revenu de base, c'est un vrai pas de côté à faire. Qu'il faut être serein pour pouvoir le faire, ça c'est évident. Et en même temps, une fois qu'on l'a fait, en tout cas ça s'est passé comme ça pour moi, pendant assez longtemps, et encore maintenant, je scanne tout ce que je vis ou tous les sujets de société avec cette idée-là. Alors j'en fais bouffer à mes proches. Alors ça, ils en ont mangé. De toute façon, depuis 10 ans, ils continuent à manger. Sylviane peut en parler. Mais il y a aussi. Je vais vous donner l'exemple de mon père. Mon père est syndicaliste. Alors il est passé de la CFDT à Sud. Il travaillait dans un hôpital public. Donc voilà, il était très 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 de gauche, porteur de valeurs comme les services publics évidemment, etc. Et quand je suis arrivée avec cette idée, avec mon enthousiasme débordant comme d'habitude et assez peu finalement, assez peu délicat, ça va mieux maintenant, mais je le travaille, en tout cas très enthousiaste. Lui, sa première réaction, ça a été non, c'est pas possible, c'est pas parce qu'il faut mériter. Et puis en plus, une chose qui lui est venue après, en tant que syndicaliste, il disait mais c'est pas possible, ça va casser tous les mouvements collectifs. Or, les progrès sociaux, on les a acquis par des mouvements collectifs, alors que ce soit des partis, mais aussi des syndicats. Et lui, il partait de son expérience. Et maintenant, il est à la retraite, mais pendant ses 40 ans de carrière, il s'est battu au quotidien pour les conditions de travail, contre aussi des patrons ou des mesures ouvertes qui fragilisait l'hôpital public, etc. Et en fait, pour lui, et comme beaucoup de syndicalistes, il y a deux choses qui venaient s'opposer à l'idée de revenu de base. C'était, la valeur travail, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assimilée à la valeur emploi. Et pour moi, c'est une dérive tellement capitaliste de cette belle idée de dire, mais oui, on a tous envie, évidemment, de contribuer, mais aussi que les autres contribuent à la hauteur de leurs moyens, bien sûr.
Okay. Hein. Qui est adossé aussi à l'utilité sociale, etc. Ce qui n'est pas du tout évident en soi, si on y réfléchit. Ce n'est pas parce que vous avez un travail que vous êtes forcément socialement utile.
Alors, tout à fait. Il y a même, je peux faire une parenthèse avec David Graeber et sa notion de bullshit job. Je vous invite à le découvrir, même sur Internet. Il est décédé, mais il y a encore des vidéos très dynamiques où il parle justement de tous ces emplois qui s'apparaissent. Donc, et voilà mon papa qui tombe dans les deux pièges de la valeur travail et de cette croyance qu'il y a que les combats collectifs qui peuvent marcher et que les combats collectifs peuvent se passer des enjeux individuels finalement, ou passer au-dessus. Avec peut-être un petit fonctionnement aussi des syndicats, d'avoir peur de ne pas savoir faire, d'aller vers des gens indépendants où on voit leurs difficultés à aller vers les précaires ou les chômeurs aujourd'hui. Et en fait, il a évolué, il a réfléchi à tout ça, et aujourd'hui, il est intervenu il y a quelque temps devant des étudiants de Sciences Po pour défendre le revenu de base, et à leur dire que, en fait, c'était très important le revenu de base, parce que justement, ça allait libérer l'individu de la peur du lendemain, et que du coup, les gens allaient pouvoir plus facilement s'investir dans ces actions collectives, parce qu'ils auraient moins peur d'affamer leur famille, par exemple, en faisant grève, et qu'en plus ça allait enrichir parce que le revenu de base c'était pas seulement une idée en l'air, c'était quelque chose de très concret, c'est un outil mais très très pragmatique, et ils se rendaient compte qu'en tant que syndicalistes ces dernières années, ils étaient de plus en plus à essayer de défendre les acquis passés, mais qu'il n'y avait plus d'ambition, et que lui ça lui faisait du bien maintenant, en défendant le revenu de base, d'être ambitieux et de promouvoir le pas suivant finalement, et ça le libérait de quelque chose, d'être toujours en réaction avec le gouvernement qui impose son schéma, qui impose son rythme, avec des constructions, même des démolitions en règle de tout notre système social, mais que là plutôt il était dans la revendication, que ce qui faisait du bien de retrouver du poil de la bête avec une idée nouvelle et de pas se contenter à dire non arrêtez de nous enlever, mais de dire non mais on veut plus et ça suffit de déconstruire dans la droite ligne du Conseil national de la résistance. Ils ont quand même réussi à instaurer la Sécu à un moment donné où la France était exsangue, quoi. Donc pourquoi on ne pourrait pas instaurer un revenu de base aujourd'hui alors que on est super riche, en tout cas en termes collectifs. Donc voilà.
Ok. Et du coup, en tout cas, je te remercie beaucoup de tout ce que tu as pu nous apporter.
Avec plaisir.
Merci.
Merci,
Virginie.
Et juste pour nos auditeurs, est-ce que tu peux leur recommander de voir, leur donner un lien internet ou un site, aller voir si ils veulent en savoir plus, par exemple, je sais pas.
Moi, je vous orienterai vers le site du mouvement parce que comme il est transpartisan, vous y trouverez des informations sur plein de sujets, sur toutes les versions, à vous de vous faire votre propre idée. Donc c'est revenudebase.info, c'est très facile. Vous y trouverez aussi une carte des expérimentations avec tous les résultats, toutes les expérimentations dans le monde entier. Vous y trouverez justement le lien pour signer l'initiative citoyenne européenne avant le 25 juin, s'il vous plaît. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis des articles thématiques et même une émission de Radio Campus Lille, si vous voulez aussi... rire de cette façon-là, et voilà, et n'hésitez pas soit à nous rejoindre, évidemment, si vous avez envie de propulser, de polliniser cette idée un peu plus, ou de construire votre propre version, pourquoi pas. On n'a pas besoin d'être économiste pour s'approprier aussi la monnaie et ces questions-là.
Ok, merci. Merci
avec beaucoup. Plaisir, prenez soin de vous.
Allez, toi aussi, à bientôt, au revoir.
À bientôt.
Au revoir.